Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre rendez-vous info du lundi au jeudi. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors Jean-Christophe, notre architecte spécialiste des questions d'aménagement du territoire, une chronique régulière à l'antenne du Débrief. On parle aujourd'hui de la tour la plus haute du monde. On avait parlé récemment de la tour en bois la plus haute du monde, qui est en construction actuellement sur le campus de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Donc, on continue dans cette même veine-là. Et cette fois-ci, on parle de la tour la plus haute du monde, elle aussi en préparation. C'est du côté de Dubaï, n'est-ce pas, Jean-Christophe?
Oui, en effet, où se trouve déjà la tour qui est la plus haute du monde en ce moment. Mais donc, ils en construiraient une qui serait encore plus haute. Dubaï est un peu le Manhattan du 21e siècle, en quelque part, parce que si on se souvient bien, au début du 20e siècle, il y avait une course effrénée, et puis à chaque nouveau gratte-ciel qui se construisait à New York, c'était le plus haut du monde, mais seulement pendant quelques mois, jusqu'à ce que le suivant soit construit.
Oui, voilà. Et cette tour de Dubaï, qui est actuellement la plus haute du monde, est assez célèbre du fait de sa hauteur, justement. On a pu la voir dans un des films de la série des Mission Impossible ces dernières années. Il y a eu des vidéos de musique aussi qui ont été tournées. Bref, elle apparaît souvent. Si tu veux, une place dans dans l'imagerie populaire mondiale. Et elle va être supplantée, finalement. En quoi consiste le projet exactement?
J'ai pas énormément de détails, mais il semble que ce serait une tour de 950 à 1100 mètres de hauteur au coût de 1 milliard de dollars, coût qui sera probablement dépassé, comme dans la plupart des projets. Et qui serait dessiné par Santiago Calatrava, une des star architectes du monde actuel.
D'accord, donc près de 1 km de hauteur, carrément, c'est tout un dénivelé ça. Ça peut même toucher les nuages, c'est complètement mégalomane. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce cabinet, de cet star architecte Santiago
Calatrava? C'est un homme d'origine espagnole et suisse qui est ingénieur et architecte là, et qui a produit beaucoup de projets récents très en vue là, dont un projet là qui est sur le site de Ground Zero. En tout cas, il y a plusieurs, aussi bien des ponts que des bâtiments là, qui ont été dessinés par lui. D'ailleurs, je pense que au Canada, à Toronto, si je me souviens bien, au centre Eaton, je pense qu'il a participé là, à la conception de la structure.
Donc, à Ground Zero, à New York, Manhattan, ouais. Est-ce qu'il avait participé à la conception de la Freedom Tower qui a remplacé...
Non. Je me souviens plus exactement quel était son rôle. Là, si je me souviens, c'est peut-être même une sortie de station de métro, je me souviens plus exactement.
Ah oui, d'accord.
Non, ça c'était un autre architecte.
Alors, quel est l'intérêt, Jean-Christophe, de construire des tours toujours plus hautes? Je veux dire, c'est assez puéril, non?
En quelque part, là, on peut dire que c'est vraiment... Il y a un élément irrationnel dans le désir de construire des tours qui affecte pas mal toutes les régions du monde. Les gens se comparent, les politiciens... compare souvent leur ville en fonction du nombre ou de la hauteur de tours qu'on y trouve. C'est toujours un élément de comparaison et d'envie. Par exemple, les politiciens à Montréal qui trouvent qu'il faut qu'on construise beaucoup plus de tours et des tours plus hautes parce que Toronto a beaucoup de tours et de tours plus hautes. Mais dans les faits, il y a très peu de raisons concrètes de construire des tours, c'est-à-dire des raisons qui relèvent de besoins concrets.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle constamment des bénéfices de la densité là, pour
voilà.
Créer des environnements urbains conviviaux et puis où il y a une certaine proximité de services. Mais il y a une densité optimale qui ne requiert pas la construction de tours, parce qu'en fait, sauf dans certains contextes, il y a toujours une question de contexte. Je veux dire, par exemple, dans des environnements comme Hong Kong ou même Vancouver, où il y a une quantité limitée de terres à développer, ben on comprend que il y a une certaine logique à construire des tours.
Verticalement.
Mais en fait, on peut obtenir des densités urbaines très 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 importantes. En construisant des immeubles de 2, 3, 4, 6 étages, qui sont des hauteurs qui ne requièrent pas que l'on prenne nécessairement un ascenseur pour se rendre à son appartement, et qui sont en fait plus efficaces du point de vue énergétique que des bâtiments plus élevés. On se fait souvent dire que les tours sont nécessaires parce qu'elles sont plus efficaces, parce que la densité fait que les infrastructures urbaines sont moins répandues, mais c'est pas la seule variable, en fait. Parce que pour une tour, il faut, par exemple, que la circulation à l'intérieur de la tour soit mécanisée, que la ventilation soit mécanisée, que tous les systèmes qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la tour consomment beaucoup plus d'énergie, en fait. Et la conception même d'une tour dans un environnement qui requiert que l'air intérieur soit maintenu à une température vivable, soit climatisé, soit par le refroidissement ou pour réchauffer l'air. En fait, les tours sont beaucoup moins efficaces que des constructions de plus faible hauteur.
D'accord. Donc, ça tient vraiment d'un réflexe psychologique ou d'une impulsion psychologique qui est égotique, finalement. Ça relève de l'ego, quoi. C'est celui qui a
le... Oui, c'est ça, je dirais. Ben, en effet, d'une part, d'un certain besoin de se montrer. Et d'autre part, je me demande des fois si la raison pour laquelle la construction de tours est mise de l'avant comme étant quelque chose de bien en soi, c'est aussi parce qu'en fait, les gens qui tirent parti de la construction de tours, c'est surtout les spéculateurs fonciers. Donc, peut-être qu'une des raisons qui motive les maires de nos villes à faire la promotion de tours, c'est aussi cet élément-là. Il y a quand même des gens qui peuvent en tirer parti, mais en fait, pour la moyenne de la population, c'est pas la façon la plus intéressante de construire ou de développer un territoire.
D'accord. Et autrement, je ne sais pas si on t'a déjà demandé des bâtiments, de concevoir des bâtiments qui sont très volumineux, mais est-ce que toi, tu accepterais, par exemple, de dessiner une tour si on t'en commandait une? Est-ce que ça poserait...
Ça dépend toujours du contexte. Je veux dire, c'est sûr que n'importe quel gros projet donne une stabilité financière qui est... rarement atteignable pour des gens qui travaillent à leur compte. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y aurait un attrait, mais je pense que ça dépendrait du projet. De façon générale, il y a quelque chose de personnel là-dedans aussi, mais je trouve que beaucoup des projets de tours, même ceux plus qu'on prétend être plus créatifs, a priori me semblent un peu... Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait convaincant.
Oui.
Même au niveau esthétique. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une tour, c'est vrai que ça peut être impressionnant et beau de loin, quand tu vois la silhouette, le profil d'une ville à l'horizon.
Oui.
Mais le fait est que des tours, et un quartier de tours, encore une fois, ça dépend du contexte, mais surtout dans des climats tempérés comme le nôtre, au pied des tours, la vie... n'est pas super intéressante.
Voilà.
D'abord, évidemment, parce que on est dans l'ombre constamment, parce qu'il y a des vents assez importants qui sont générés par la présence de tours, qui créent des couloirs qui accélèrent la vitesse du vent. Et de façon générale, les quartiers qui se trouvent au pied des tours ne sont pas les plus vivants dans aucune ville, que ce soit New York, Boston, etc., et puis souvent, le problème, c'est que la façon dont les tours sont conçues, en fait, ce qui fait qu'il y a de la vie sur une rue, c'est aussi qu'il peut y avoir de l'interaction entre l'intérieur des bâtiments et l'extérieur. Donc, on prend des quartiers nord-américains, ouvriers, typiques du début du 20e siècle. Et puis c'est des bâtiments de 3-4 étages, avec des balcons, des escaliers. Quelqu'un qui vit dans un appartement peut facilement descendre au niveau de la rue. Il peut y avoir une interaction entre la rue et les appartements et les commerces qui l'abordent. Ce qui n'est pas le cas dans la façon dont on conçoit et on construit des tours. Entre autres parce que on a beau densifier quand on construit une tour, souvent les tours sont équipées de, par exemple, de stationnement souterrain. Et donc, c'est pas parce qu'on a construit une tour que les gens vont moins utiliser leur automobile ou qu'on va créer la convivialité nécessaire au niveau de la rue pour promouvoir un mode de vie qui requiert moins d'énergie.
D'accord. Mais la verticalité demeure pertinente lorsqu'elle permet d'empêcher, par exemple, la construction d'immenses développements immobiliers sur des lotissements de maisons unifamiliales. Ça demeure une possibilité pour préserver de l'habitat et justement ne pas créer des espèces de taches d'huile formées de maisons unifamiliales à perte de vue, n'est-ce pas?
Ben c'est un élément intéressant que tu amènes et en fait nos politiciens justifient souvent le fait de démolir des quartiers ouvriers d'une centaine d'années qui ont déjà une très forte densité pour y construire des tours. Ils disent ben c'est nécessaire pour éviter l'étalement urbain. Mmh. Or encore une fois dans les faits ça c'est un espèce de lieu commun qui en fait il faut remettre en question parce que ça n'est pas vrai. Le problème, c'est moins que les quartiers centraux déjà denses des villes ne soient pas suffisamment denses. Le problème, c'est que les nouveaux quartiers qu'on construit en périphérie sont très, très, très peu denses. Alors, si je prends l'exemple de Montréal, un quartier qui est construit entièrement à 2 ou 3 étages, comme le plateau Mont-Royal, a une densité de 11 000 habitants par kilomètre carré, alors que les banlieues ont souvent une densité de moins de 3 000 habitants par mètre carré. Donc, avant de démolir des quartiers déjà extrêmement denses pour supposément les densifier plus, surtout que c'est des quartiers qui sont fonctionnels et qui consomment très peu d'énergie, entre autres parce qu'ils favorisent un mode de vie qui n'est pas dépendant de l'automobile, peut-être qu'il faudrait commencer à densifier les périphéries qui ont déjà été construites.
Oui, voilà. Et du côté de Victoria, ici, il y a des constructions qui se font en périphérie de la ville. Il y a des nouveaux quartiers qui champignonnent, si tu veux. Et ce sont des maisons unifamiliales qui s'étendent sur des kilomètres carrés, comme ça, du jour au lendemain, là où auparavant il y avait une forêt ou des champs. Et justement, dans ces cas-là, ne vaudrait-il pas mieux de construire des tours dans l'absolu, même si, évidemment, tout le monde veut une maison unifamiliale et ne se satisfait pas forcément de vivre dans une tour? Mais est-ce que c'est une réflexion qu'on devrait pousser?
Ben, encore une fois, il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'entre la tour de 50 étages et la maison unifamiliale de 4000 pieds carrés, il y a un entre-deux. Il y a l'appartement dans un logement de 3 étages qui a accès à une cour arrière, qui a accès à un parc pas trop loin, qui permet une certaine convivialité, qui permet une densité qui est souvent de 4 à 5 fois plus élevée que la densité d'un quartier de maison unifamiliale typique.
Oui.
Imaginons que la priorité devenait de recycler les quartiers de maisons unifamiliales qui ont été construits depuis les années 50 en Amérique du Nord. Et là, on parle déjà d'une superficie de milliers et de milliers d'hectares que si seulement on ramenait leur densité à la moitié de ce qu'est la densité d'un quartier comme le plateau Mont-Royal à Montréal, donc un quartier ouvrier du début du 20e siècle, on pourrait déjà doubler la population de la ville nord-américaine moyenne sans même développer 1 mètre carré de territoire vierge.
Alors, c'est possible de faire ça pour des banlieues qui se sont développées à la fin des années 50 ou au début des années 60, selon toi?
Ben, il faudrait qu'on s'y mette. Je
suis certain comment fait-on?
En usant de notre créativité et de notre ingéniosité, on pourrait trouver des façons très intéressantes de rendre ces quartiers-là plus fonctionnels du point de vue social, du point de vue communautaire, du point de vue énergétique.
Oui, ben ça peut donner lieu à des débats assez relevés, puisqu'on s'attaque quelque part à la sacro-sainte propriété. Ces maisons-là existent déjà, elles sont occupées par des familles. Est-ce qu'il faudrait construire de nouvelles maisons dans les interstices ou les espaces libres, raser des parcs pour créer de la densité? Comment fait-on avec ces anciennes banlieues qui, pour les
Eh bien,
revitaliser?
c'est des excellentes questions que tu poses, auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été énormément travaillé encore. À l'Université Laval, il y a un groupe de recherche en urbanisme qui s'est penché sur la question, parce qu'en fait, même du point de vue de la démographie, il y a quelque chose qui joue à l'encontre de ces banlieues dortoirs qui ont été construites depuis maintenant plus de 50 ans et toutes celles qui ont été construites depuis, c'est que souvent ces banlieues-là, les gens qui les ont achetées sont rendus des personnes âgées qui vivent souvent seules maintenant dans une maison où à une époque il y avait une famille. Et donc, dans ce sens-là, le moment est probablement propice à songer au recyclage de ces quartiers-là qui connaissent un certain problème à ce niveau-là parce qu'ils ne sont plus adaptés aux populations qui les habitent.
Wow, il faudrait vraiment une vision d'ensemble très bien articulée et très fouillée, documentée. Mais c'est sûrement pertinent, enfin, de réfléchir à tout cela. Je ne sais pas d'où pourrait provenir la volonté politique. Actuellement, on
Ben,
n'a pas
ça,
des
c'est une
gouvernements
bonne
qui sont
question parce
très...
que justement, les intérêts financiers sont plus, et c'est là que ça revient à la question de savoir si la tour est vraiment un antidote à la banlieue qui s'étale. C'est qu'en fait, les intérêts financiers sont plus du côté à la fois de la construction de tours et à la fois du développement de nouveaux terrains. Donc, c'est ce qui est le plus facile du point de vue politique.
Je te
Raser
donne.
les anciens quartiers déjà denses. Des villes pour construire des tours, ce qui n'empêche en rien l'étalement urbain parce que les populations qui sont intéressées par un condo au 25e étage d'une tour dans un centre-ville, c'est pas la même population qui est intéressée par une maison avec une cour arrière.
Oui, voilà. Entre parenthèses, juste pour citer une récente expérience personnelle ici dans les environs de Victoria, entre Colwood et Mauchoisin, en périphérie de Victoria, on a une espèce de petite ville toute neuve qui vient de surgir du sol avec les feux de circulation, les passages piétons, les trottoirs. Il y a même une école qui a été bâti pour accueillir les enfants de cette ville. Et pour le moment, la ville n'a pas encore d'habitants. Les maisons sont à peine complétées. Et c'est assez curieux de traverser cette ville qui n'est pas encore occupée. C'est comme une ville fantôme et elle occupe énormément d'espace, cette ville. Elle a été gagnée sur la forêt et les champs. Ça fait ressortir toutes les questions qu'on a abordées. Et elle existe partout en Amérique du Nord, cette ville. Chaque année, de nouveaux développements sont créés, de nouveaux champs sont transformés. Et voilà, donc verticalité, horizontalité, communauté, espérons que nos hommes et nos femmes politiques réfléchiront à ces questions parce que l'étalement urbain, c'est une question à laquelle justement il faut réfléchir.
Oui, absolument. Et je pense que la meilleure réponse pour contrer l'étalement urbain, c'est de miser sur, ça peut sembler un peu facile, mais en fait, ce n'est pas du tout, sur la convivialité et la proximité. C'est ça les objectifs pour permettre un mode de vie qui est moins énergivore, qui dépend moins de l'automobile et qui est moins anonyme aussi, ce qui a d'ailleurs, des conséquences au niveau de la santé mentale des gens. Il y a une étude qui avait été faite à la fin des années 60 en Grande-Bretagne, qui avait été publiée dans le British Journal of Medical Science,
oui.
Et qui en venait à la conclusion que lorsqu'on vivait à plus de 4 étages du niveau de la rue, les problèmes de santé mentale augmentaient, parce que, surtout dans le cas des familles, parce que les gens sortaient moins à l'extérieur. À partir du moment où on a besoin d'utiliser un mode de transport mécanisé pour se rendre à l'extérieur, on a tendance à plus rester chez soi.
Oui, on descend de notre appartement surélevé au garage souterrain, on sort avec la voiture et il n'y a aucune interaction avec l'environnement immédiat, quelque
oui,
part.
Oui, et c'est simplement que quand un parent sait, par exemple, qu'il peut regarder son enfant jouer dans la ruelle avec les autres enfants du voisinage et l'appeler de la maison, il sera plus prêt à laisser sortir son enfant seul que si tu habites au 20e étage et qu'il faut prendre l'ascenseur pour accompagner l'enfant à l'extérieur, par exemple.
Fascinant, Jean-Christophe. Le temps ne nous laisse plus de place. Le sablier est écoulé. Merci beaucoup pour cette réflexion qu'on a démarrée avec la tour la plus haute du monde. Ça nous a donné la possibilité d'ouvrir sur la façon de construire nos villes, finalement, et de questionner l'étalement urbain.
Merci à toi.
Merci beaucoup. À bientôt.
Bonne journée.